Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Florence Alanouve, directrice de la valorisation LNCI. Et nous avons l'immense plaisir d'écouter aujourd'hui 5 étudiants, étudiantes de l'ENSIB ou diplômées de l'ENSIB, élèves conservateurs et conservatrices de l'ENSIB sur les grandes thématiques, comme disait Nathalie de Marcerou-Ramel tout à l'heure, les grands enjeux des bibliothèques. Donc c'est pour nous à chaque fois un vrai plaisir, je l'ai déjà dit, une vraie joie de les écouter, parce que nous savons que c'est un petit peu le clou du spectacle de cette journée actualité de la recherche. Et je suis consciente potentiellement du coup de mettre la pression à travers ces mots auprès de nos étudiants et de nos élèves conservateurs et conservatrices. Donc les règles du jeu qui ont été établies sont les suivantes. À chacun, donc et chacune, 10 minutes d'intervention sur les différents mémoires qu'ils ont rédigés. 5-6 diapositives en maximum. Et donc les présentations se font à la suite les unes des autres et vous aurez la possibilité de poser des questions parce que c'est ça l'enjeu, c'est d'établir un contact, des échanges avec la salle. Donc la première qui va entrer dans l'arène, j'allais dire, c'est Juliette Emehou. Alors Juliette Emehou, donc vous êtes docteur en histoire moderne et élève conservatrice d'État des bibliothèques. Vous avez une expérience d'enseignante-chercheuse dans une licence de PSL, Paris Sciences Lettres. Votre thèse que vous avez réalisée à l'EHESS est soutenue en 2020, portée sur le célibat dans la noblesse française d'Ancien Régime, 16e-18e siècle, et fera l'objet d'une publication prochaine en janvier 2025 aux presses universitaires de Rennes. À compter du 1er juillet, vous occuperez le poste de responsable des collections iconographie au sein du département photographie et iconographie de la BHVP, la ville de Paris. Vous serez également coordinatrice du carnet hypothèse de la bibliothèque Les Chauguettes aux côtés de Julie Duprat. Donc vous me signalez que vous avez, avec plusieurs camarades de la promotion DCP32, créé l'ANCEB, Association des nouvelles et nouveaux conservateurs d'État des bibliothèques, dont vous êtes coprésidente. Et dans le cadre de votre mémoire d'école, dont vous allez nous parler maintenant, vous avez mené une recherche sur les violences sexistes et sexuelles au sein des bibliothèques universitaires. Votre mémoire s'intitule « Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, une mission de bibliothécaire, les BU face au VSS, sous la direction de Nathalie Clos, directrice des BU d'Angers ». Donc à vous Juliette. Vous pouvez aller sur scène. C'est là. Hop. C'est parti.
Bonjour à toutes et tous. Merci Florence pour cette présentation et merci aux organisatrices et organisateurs de la journée de me permettre déjà de présenter mon mémoire d'études et de jeter ainsi la lumière sur les VSS. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de pousser les portes de nos bibliothèques, il est important de s'entendre sur ce que sont les violences sexistes et sexuelles, ou VSS. S'il existe des définitions englobantes, comme celle proposée par l'IGESR en 2021, donc que j'ai rapportée ici, il est important de connaître la liste des délits et crimes qui appartiennent au continuum des VSS. En vous présentant ce tableau, donc, produit par la DGAFP, je souhaite également rappeler que nous disposons, en tant que fonctionnaires et en tant que professionnels des bibliothèques, d'un arsenal juridique pour qualifier les faits et sanctionner les personnes. Il ne reste plus qu'à s'en servir. Mon mémoire d'études s'est concentré sur les bibliothèques universitaires pour deux raisons principales. La première est personnelle. Donc, comme vous l'a présenté Florence, j'ai commencé ma vie professionnelle à l'université, d'abord en tant que doctorante, puis en tant qu'enseignante, et j'y ai été témoin de comportements sexistes et d'actes délictueux, voire criminels. La seconde raison est que depuis une vingtaine d'années, l'ESR tente de combattre ces comportements sous l'impulsion d'associations et de coups de tonnerre médiatiques. Son ministère de tutelle se montre d'ailleurs à la hauteur des événements et a mis en place depuis 2012 une série de lois et de mesures qui font bouger les choses petit à petit. Aujourd'hui en France, les universités sont légalement obligées d'accueillir en leur sein une mission égalité, de mettre en place un dispositif de signalement des violences et de rédiger des plans pluriannuels d'action égalité sur 3 ans. L'état des lieux des actions pour l'égalité, qui a été réalisé en 2023, témoigne de la bonne mise en place de ces mesures. Il enregistre également un certain nombre de limites, dont la plus grave est sans nul doute le très faible taux de réponse disciplinaire et pénale. 5% de signalements donnent lieu à une sanction disciplinaire, 1,4% à une sanction pénale. L'université fait donc à peine mieux que la réalité sociale dans laquelle elle s'inscrit. En 2021, en France, 0,6% des viols déclarés par des personnes majeures ont fait l'objet d'une condamnation, pour vous donner un exemple. S'il est certain que les universités françaises se sont emparées du sujet des VSS, est-il réellement pertinent de s'intéresser aux BU sous ce prisme ? En contactant tous les SCD de France, de même que l'ADBU et l'Association des directeurs et directrices de CRFCB, le premier réflexe de mes interlocuteurs a été la surprise ou le scepticisme. On m'a rétorqué que le sujet était géré au niveau de la présidence de l'université, que les BU n'étaient pas intégrés à ces questions, ou bien qu'il n'était pas perçu, le sujet des VSS, comme une mission première, ni même secondaire en fait, par les bibliothécaires eux-mêmes. Lors des entretiens individuels réalisés auprès d'une 20aine d'agents de bibliothèque, un autre point a été soulevé. Ce milieu professionnel, largement féminisé, est-il réellement sujet aux VSS ? La question se comprend mieux quand on sait que 97% des violences sexuelles sont le fait d'hommes. Toutefois, si les femmes représentent 2/3 du personnel des bibliothèques, le haut de la pyramide, soit le grade de conservateur général, est occupé pour moitié par des hommes. Par ailleurs, mon étude a englobé agents et publics des BU, ce qui multiplie les potentielles victimes parmi les étudiantes et les potentiels agresseurs. Les entretiens individuels ont plutôt révélé un sentiment de sécurité entre collègues, avec toutefois une plus grande vigilance auprès des jeunes femmes des équipes et en premier lieu les monitrices étudiantes. Les entretiens ont aussi montré que tous les bibliothécaires ont eu affaire à des cas d'exhibition ou de masturbation publique dans l'enceinte de la BU, qu'il ou elle en ait été victime ou témoin, ou bien sollicité par des étudiantes ou monitrices victimes. Les VSS ne s'arrêtent donc pas aux portes des BU. Seulement, pour en avoir le cœur net, encore faut-il se poser la question et mener l'enquête. C'est ce qu'a fait Thomas Antignac dans la bibliothèque dont il est responsable sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université. C'est le campus Jussieu. Cette enquête est la première réalisée en France dans une BU. Elle propose une méthode qu'il sera bon de voir appliquer dans d'autres STD du territoire pour confronter les résultats et créer collectivement des dispositifs. Je vous renvoie à mon mémoire pour le détail de cette enquête. Puisque les VSS existent bel et bien en bibliothèque, il convient de lutter contre. Alors déjà, au sein des équipes, parce que c'est l'un des devoirs des encadrants-encadrantes, celui d'assurer la sécurité et la santé des agents. Pour cela, mon étude formule quelques préconisations. D'abord, posez la question, notamment lors de l'entretien annuel. Avez-vous été victime ou témoin de violences sexistes ou sexuelles ? Plus globalement, il faut sortir ce sujet de la sphère du tabou et ouvrir le dialogue. Ça peut aussi se faire de manière plus informelle tout au long de l'année, avec notamment des affichages dans les espaces dédiés au personnel ou dans votre bureau si vous êtes en position d'encadrement. Afficher les numéros d'urgence, afficher les associations de votre territoire, afficher le flyer de, enfin mettre à disposition le flyer de la mission égalité de votre université, avec la précision sur les modalités de signalement, etc. En bref, il faut envoyer des signaux forts de son investissement auprès des équipes. Il faut également pratiquer une politique de tolérance zéro. Il n'y a pas de petite violence, le sexisme n'est pas un sujet à prendre à la légère. Il faut donc recadrer systématiquement, en parole, mais surtout par écrit. La tolérance zéro doit s'accompagner d'une traçabilité. Au mieux, cela sert à la prévention, à la pédagogie au sein des équipes. Et si les choses s'enveniment, ça devient absolument nécessaire pour monter des dossiers et lancer des procédures. Face au public, la lutte contre les VSS est une mission d'accueil et de service public. Et c'est aussi une mission scientifique qui rejoint notre devoir d'information et de documentation. Les STD ont tout intérêt à s'investir dans ces questions en revendiquant leur place dans la mission égalité de leur université. Ils gagneront en visibilité auprès de la présidence et les missions y gagneront en compétences. Car en effet, les compétences des bibliothécaires sont nombreuses à pouvoir s'appliquer à la lutte contre les VSS. Cela permettra aussi de rassurer les collègues qui craignent une redéfinition de notre métier. Il est certain que nous ne sommes ni policiers, ni magistrats, ni assistantes sociales. En revanche, nous maîtrisons l'Apple Doc, les ressources numériques, l'action culturelle. Nous sommes des lieux d'accueil pour le public, mais aussi pour des associations, comme le planning familial, par exemple, ou pour les autres services de l'université, comme le service de santé étudiante, qui peut aussi aborder ces questions de santé sexuelle, de VSS, etc. Sans outrepasser nos compétences, nous pouvons faire des bibliothèques des lieux d'information et de prévention sur le sujet grave et omniprésent des VSS. Les BU doivent plus particulièrement prendre soin des publics vulnérables qu'elles accueillent. Je terminerai donc cette présentation par un rapide focus sur la catégorie des doctorants et doctorantes. La relation interpersonnelle qui unit doctorants et directeurs de thèse, l'autorité symbolique du directeur, la précarité économique du doctorat sont autant d'ingrédients qui augmentent les risques de violences morales et sexuelles. Certaines universités en ont d'ailleurs conscience, à l'image de Paris-Saclay, qui a créé une formation pour sensibiliser au VSS. Cette formation est obligatoire pour tous les personnels, avec une attention particulière portée aux doctorants et surtout aux directeurs de thèse. La mission égalité de Sorbonne Université, en partenariat avec Thomas Santignac, expérimente cette année la BU comme lieu de rencontre neutre entre directeurs et doctorants, afin d'éviter que les réunions ne se fassent dans le bureau fermé du directeur ou dans des espaces non professionnels comme le café ou au domicile de ce dernier. Alors en conclusion, je vous invite à lire mon mémoire pour découvrir toutes les initiatives inspirantes menées partout en France par nos collègues. Je n'ai pas pu en 10 minutes rendre hommage au travail qu'ils et elles mènent au quotidien dans leur BU à chaque recoin du territoire. Je vous invite également à vous plonger dans le mémoire de Nina Pranal qui interroge le rôle des bibliothèques, cette fois BU et lecture publique, dans l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. L'existence de ces travaux et avant eux la parution du livre dirigé par Florence Salanouve, Agir pour l'égalité en bibliothèque, montre bien que le sujet des VSS a trouvé sa place dans notre profession et qu'il rejoint à de multiples égards nos missions de bibliothécaire. Je vous remercie de votre attention et je serai très heureuse de répondre à vos questions à la fin de ce panel. Merci.
Merci beaucoup Juliette. En effet, le mémoire est accessible sur la bibliothèque numérique de l'ENSIB. Alors, vous avez également la possibilité de le chercher sur le moteur de recherche Google, parce que nous sommes très très bien référencés concernant les mémoires étudiants. Nous allons passer maintenant à la présentation de Camille Forger. Alors, voilà, excusez-moi. Donc, Camille Forger, qui est diplômée du Master Sciences de l'Information et des Bibliothèques, parcours archives numériques, qui a fait une hypocagne, c'est ce que vous me signalez, en double spécialité espagnole histoire. Vous êtes depuis 2023 e-archiviste aux Archives nationales du Luxembourg. Vous êtes autrice d'un mémoire remarquable, Voyager dans le temps à l'ère des expositions virtuelles d'archives, sous la direction de Geoffroy Gawin, maître de conférence à l'ENSIM. Et vous débutez votre étude originale par cet exergue tiré des pensées de Pascal, Nous errons dans des temps qui ne sont pas nôtres. Je vous laisse la parole, Camille.
Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de cette journée de me donner ici l'occasion de présenter les résultats de mes travaux de recherche menés à l'ENSIB et donc avec ce mémoire qui s'intitule « Voyager dans le temps à l'ère des expositions virtuelles d'archives ». Par ce travail, j'ai souhaité m'interroger sur les expositions virtuelles comme autant d'invitations à repenser nos rapports au temps en faisant l'hypothèse d'un paradoxe entre le passé capturés, figés dans les documents d'archives et les flux d'informations continuellement actualisés avec lesquels le temps paraît tout emporter inexorablement. Je souhaitais aussi observer si les expositions virtuelles constituaient un moyen d'errer dans des temps qui ne nous sont pas contemporains, faisant écho à la citation qu'a évoquée Florence de Pascal, et donc voir aussi s'il s'agissait d'un moyen de se trouver en présence de fragments de temps apprivoisés. C'était aussi l'occasion d'évaluer si le présent correspond à un cadre temporel unique de référence. Lors de la conception et de la réception par les visiteurs des expositions, ou s'il subsiste en nous la capacité de distinguer le passé dont les documents témoignent, alors que nos capacités attentionnelles peuvent être happées par les nombreux contenus accessibles simultanément. C'était aussi enfin l'occasion d'étudier comment les archivistes anticipaient la représentation et la perception du temps dans ces expositions, pour voir aussi quelles sont les interactions, les postures attendues des visiteurs dans leur parcours. Donc le périmètre des archives numériques ici a été restreint aux seules expositions virtuelles. Leur mise en ligne participe d'une transition des pratiques culturelles accentuée par la pandémie de 2020, qui a vu l'essor des initiatives visant à faciliter l'accès à distance des ressources culturelles. Pour constituer mon corpus, j'ai recherché les expositions référencées sur le portail national France Archives, avec l'exigence d'une véritable transposition numérique. Je n'ai par exemple pas retenu les expositions virtuelles réalisées uniquement à partir de photos d'expositions physiques ou construites sur le modèle de pages web traditionnelles. Ma sélection, elle est composée de 3 expositions que je peux vous inviter à consulter et qui sont les suivantes. On refaisait le monde, souvenir de 1968 à Avignon, réalisé par les archives municipales d'Avignon, d'abord dans l'environnement physique en 2018, puis transposé virtuellement en 2022. Metz hier et aujourd'hui, des archives municipales de Metz, mises en ligne exclusivement en 2022. Et Quimper, les couleurs du temps, produites par les archives municipales et communautaires de Quimper, uniquement en 2020 et mises en ligne uniquement. Donc chacune de ces expositions a connu un cheminement divers, elle peut avoir d'abord été constituée dans l'environnement physique, puis transposée virtuellement, ou avoir été uniquement produite pour l'environnement virtuel. Elle propose également une certaine diversité documentaire, en mettant en avant des documents iconographiques qui sont majoritaires, mais aussi des documents textuels et sonores. Ces expositions, j'ai pu les interpréter à l'aide d'une grille d'analyse sémiotique, qui a été également complétée avec des entretiens avec 5 professionnels qui ont participé à la réflexion concernant la construction de ces expositions pour comprendre donc comment ils avaient pensé l'élaboration de ces parcours de médiation qu'ils proposent aux internautes et leur positionnement aussi vis-à-vis de la représentation et de leur rapport au temps. Vous voyez l'image en bas à droite qui a été produite par les archives municipales et communautaires de Quimper, qui vise à détourner le contexte originel de l'archive pour commenter une actualité, pour valoriser le document d'archive uniquement à partir de ce qu'il permet de dire du présent, à travers un passé présenté comme intemporel, et il n'y a aucune mention en fait du contexte d'origine de ce document. Donc, au cours de mes recherches, j'ai pu constater une forte adhésion des archivistes aux opportunités que présente l'environnement numérique, comme un espace d'exposition complémentaire des expositions physiques. Ils ont également conscience des contraintes et des enjeux que représente cet environnement. 3 axes sont ressortis également de ces travaux. D'abord, le fait qu'il était important de déconstruire ce qui semblait un rapport naturel au temps. C'est en fait un exercice socialement et culturellement construit, avec l'idée que les frises chronologiques sont là aussi pas seulement des marottes personnelles, mais des exercices qu'on a l'habitude de produire lorsqu'on fait par exemple des études d'histoire, pour mieux visualiser l'enchaînement chronologique des événements. Et aussi, pour le cas de l'exposition virtuelle de Metz, le passé était naturellement a priori attribué au côté gauche de la page, tandis que le futur était attribué au côté droit. Alors c'était à la fois pour des raisons techniques, mais aussi parce que ça semblait plus naturel. Et en fait, ça induit un sens de lecture qui fait qu'on ne peut passer l'image que de la gauche vers la droite et pas comparer le coin droit de l'image du passé avec le coin gauche de l'image présente. On a aussi pu constater qu'il y avait une forte recherche d'interactivité et de ludicité de ces expositions, puisque l'analyse révèle qu'il y a un travail important des archivistes en matière d'ergonomie de la navigation, afin de laisser les internautes aux commandes de leur expérience, avec la possibilité de manipuler les documents en cliquant, en zoomant, en superposant aussi les documents, en quête par exemple des 7 différences, comme vous pouvez le voir dans l'image en bas à gauche. Le procédé de colorisation appliqué par les archives de Quimper recrée aussi une certaine proximité avec les archives, rétablit une certaine capacité de projection dans le passé, pour faire prendre conscience à l'internaute qu'il s'inscrit dans une continuité temporelle qui le dépasse. Les dispositifs virtuels étudiés restent de taille réduite, avec un parcours balisé par les efforts de contextualisation réalisés par les archivistes, afin d'anticiper la réception des internautes pour comprendre donc le contexte. Enfin, ces expositions sont aussi l'occasion de dépoussiérer l'image des archives. À travers les expositions virtuelles, il devient possible d'être présent autrement aux archives et de voir apparaître des détails qui restaient invisibles grâce à un écran qui fait office de microscope. L'étude a également montré que le modèle des réseaux sociaux influence grandement les archivistes et que la culture web inspire la culture archivistique. Pour conclure donc, la consultation d'expositions virtuelles d'archives propose un cadre particulier d'expérience temporelle, avec un passé qui peut être rapatrié dans le présent, et un visiteur plongé dans un ailleurs temporel, pour échapper peut-être à l'impression d'accélération qui nous guette au quotidien. Ces expositions animent la conscience historique des internautes, noyés dans des flux qui pouvaient provoquer une certaine déstructuration pour leur perception du temps long. Avec ces dispositifs, les individus sont donc appelés à s'approprier le temps, à le décomposer et à le manipuler. Ces réflexions s'inscrivent enfin au milieu d'enjeux sociétaux plus larges qui intéressent l'ensemble des sciences de l'information et de la communication, puisque la préoccupation pour la désinformation, la lutte contre les fake news, peut être doublée par une préoccupation concernant la création d'un faux passé, de fausses archives et de fausses sources historiques. En effet, pour paraphraser une célèbre formule, ceci n'est pas un document d'archive. Ce que vous voyez à l'écran sont en fait des images générées par l'intelligence artificielle dans le cadre d'une initiative, Synthetic Memories, qui vise à proposer des supports de souvenirs pour des individus qui n'ont pas de traces matérielles de leur passé. Ça permet donc de valoriser dans une certaine mesure la mémoire de communautés qui sont dépourvues d'archives. Mais de tels projets peuvent nous interpeller aussi sur des questions éthiques et renouvellent donc le besoin de rester vigilant, s'il en était besoin, afin de s'assurer que les mémoires virtuelles, le temps virtuel qui était proposé dans ces expositions, ne deviennent pas des mémoires artificielles. Je vous remercie.
Merci beaucoup Camille. Nous allons bientôt donner la parole à Eddy. Alors je vous présente Eddy Noblet. Donc vous êtes diplômée d'un master d'histoire à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pendant vos études, vous avez travaillé au sein du ministère de la Défense. Vous avez mené des missions éditoriales et vous avez même été responsable de service d'une agence de communication en tant que cadre du secteur privé. Vous m'indiquez que vous avez renoué avec votre vocation de jeunesse, mais êtes-vous si vieux que ça, en rejoignant définitivement, c'est ce que vous pensez avec passion, SIC, le monde des bibliothèques, d'abord en tant que bibliothécaire, puis élève conservateur des bibliothèques. À compter du 1er juillet, vous allez rejoindre Nîmes en tant que directeur adjoint, responsable des fonds patrimoniaux à la bibliothèque municipale classée du Carré d'Art. Votre mémoire porte sur les bibliothèques et la guerre. Vous vous interrogez notamment sur les conséquences du retour des guerres de haute intensité sur la protection des bibliothèques patrimoniales. Et vous avez cette définition de la guerre dans la première partie de votre introduction. La guerre que nous retiendrons dans cette étude n'est bien sûr pas celle des métaphores, Ce n'est pas celle que nous menons contre le cholestérol, les caries ou la malbouffe. Elle est celle des superlatifs et de la démesure. Et je vous laisse la suite. Donc,
merci.
Merci à vous.
Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Et je renouvelle également mes remerciements à l'ENSIB d'avoir accepté que je travaille sur ce thème, les bibliothèques et la guerre. Pour l'anecdote, j'avais proposé deux sujets à l'ENSIB. Le premier sur lequel j'ai travaillé, les bibliothèques et la guerre. Et le deuxième sur la poésie contemporaine et les bibliothèques, un sujet sur lequel je ne désespère pas de travailler un jour. Alors l'élément déclencheur de cette étude a été une conférence de presse donnée en septembre 2021 par le général Bourcard, qui est le chef d'état-major des armées. Il annonçait le retour des guerres de haute intensité, des chocs plus violents, des pertes plus lourdes. Je me suis donc demandé quelles seraient les conséquences pour la protection des biens culturels en général et pour le patrimoine des bibliothèques en particulier. Le sujet va bien sûr plus loin que la protection, parce que la guerre, comme dans toute situation de crise intense, questionne aussi la déontologie des fonctionnaires, le devoir de réserve, le pluralisme des opinions et celle des collections. Face au chaos, on fait quoi ? Une définition de la guerre de haute intensité. Il s'agit d'une confrontation très violente, susceptible de provoquer des morts nombreuses et des dégâts très lourds. La guerre de haute intensité est aussi susceptible d'entraîner une attrition importante, c'est-à-dire que l'affrontement s'étend dans le temps. Il s'agit en fait d'une guerre des nerfs, des moyens et de l'attente. La vulnérabilité des sociétés est évidente, parce que les vies humaines, civiles et militaires sont en jeu, et le patrimoine est une cible de choix. Le patrimoine est évidemment un enjeu de conflit. Quand on s'inscrit dans la profondeur historique, l'inventaire de tous les patrimoines culturels, matériels et immatériels, détruits, spoliés, supprimés pour l'appât du gain ou pour dominer, ou pour détruire des communautés humaines, cet inventaire immense, finalement impossible à réaliser, n'aura probablement pas de fin. En raison de l'ampleur des dégâts et du fait de l'angoisse de la perte, le mémoire revient sur la prise de conscience patrimoniale en même temps que la prise de conscience de la protection. La codification des conflits armés ainsi que la codification des mesures de protection vont de pair. Pour ne reprendre qu'un seul exemple, en 1945, lorsque l'UNESCO est créée, c'est la guerre qui a introduit son acte fondateur. Le mémoire fait aussi le point sur la Convention de la Haye et ses protocoles additionnels, ainsi que sur la solidarité professionnelle des gardiens du patrimoine, et pour n'en citer que quelques-uns, l'IFLA, le bouclier bleu, l'ALIF, Proculteur, etc. En France, la protection du patrimoine est sur le qui-vive. En 2015, le rapport Martinez formulait 50 propositions. En 2022, pour les bibliothèques, l'IGESR faisait le constat que la protection des bibliothèques patrimoniales restait insuffisante. En 2023, le ministère de la Culture a lancé un plan d'action national. Cela passe par un outil important qui est le plan de sauvegarde des biens culturels. Nous n'avons pas le temps ici d'entrer dans le détail, notons toutefois deux points. Les PSBC, les plans de sauvegarde des biens culturels en France, répondent surtout à la dangerosité du quotidien, les incendies, les inondations. Et deuxième point, la protection des biens culturels s'inscrit dans un arsenal juridique qui en France est solide, mais néanmoins complexe. Est complexe pour le non-spécialiste. Or, la protection est bien sûr l'affaire de tous, des élus jusqu'aux agents des bibliothèques de terrain, quelle que soit leur filière ou leur statut. Le mémoire propose un focus sur l'exemple suisse des PSBC en cas de conflit armé, un modèle qui a le mérite de la simplicité et de la clarté dans une loi cadre articulant les responsabilités, les missions et les moyens mis en œuvre, ainsi que le signalement et la cartographie des biens qui sont protégés. Il s'agit d'un exemple, pas d'un modèle qu'on peut reprendre tel quel, évidemment, puisque les organisations administratives ne sont pas les mêmes. Le mémoire fait le point aussi sur l'évolution de la conflictualité, qui ne passe plus par une valse à trois temps qui irait de la paix à la crise, puis à la guerre, avant la signature d'un traité de paix dans un cadre westphalien et un cadre clausewitzien. Les relations internationales aujourd'hui ne sont plus une arène réservée aux seuls princes, diplomates et soldats. Nous sommes dans un triptyque de compétition, de contestation et d'affrontement, mettant en scène une pluralité d'acteurs, avec des crises qui peuvent durer, dans des affrontements qui sont multichamps, multimilieux, c'est-à-dire terre-air-mer, dans l'espace, sous la mer, mais aussi dans le cyberespace. Ce sont aussi les guerres de l'information et des perceptions. L'étude revient, fait un focus sur la guerre en Ukraine, les dégradations et les destructions de bibliothèques, les spoliations de collections, la solidarité internationale des bibliothécaires, l'engagement remarquable des collègues ukrainiens, et l'étude questionne aussi l'engagement. Un engagement, oui, mais jusqu'où? Jusqu'où on peut aller? Et là encore, ça questionne la déontologie, le devoir de réserve et la nécessité du pluralisme. Face à la guerre, les bibliothèques sont évidemment vulnérables en tout, elles ne sont pas des combattantes. Que ce soit la mort, l'empêchement d'aller travailler, les dégradations, les destructions, les spoliations, le vol ou le remplacement de données numériques, etc., etc. Mais leurs limites sont aussi des opportunités, notamment pour donner du sens, pour documenter les transgressions. Et pour faire cela, il faut évidemment être exigeant en matière de déontologie. C'est aussi parmi leurs missions la nécessité de préserver la complexité afin de traverser le chaos en participant à la définition de valeurs post-conflit et en participant aux nécessaires reconstructions. Enfin, pour finir, le mémoire a été l'occasion de travailler avec une méthodologie de prospective en créant un groupe de travail informel réunissant des collègues de différents ministères. C'était réjouissant et passionnant de croiser des cultures professionnelles différentes. Et nous avons travaillé à des scénarios d'anticipation sur la protection des bibliothèques en cas de conflit armé et en fonction de l'intensification d'un conflit armé. Ces scénarios ont conduit à la formalisation de propositions pour la protection des bibliothèques. Enfin, pour conclure, la guerre, en tout cas, m'est apparue encore en France comme un tabou, à la différence d'autres pays européens comme la Suède ou comme la Finlande, comme si penser la prévention allait faire venir l'incendie. Évidemment, en 10 minutes, présenter un mémoire sur ce thème, c'est une bande-annonce. Le mémoire est en ligne et je serais absolument ravi d'échanger avec qui le souhaite sur ce mémoire à l'issue de cette journée. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Un grand merci, Eddy. Nous continuons notre tour de parole avec Florine Jaouzidi, qui va présenter son mémoire autour du travail bien fait. Mais je vous présente, comme les autres, vos autres camarades également, Florine. Donc vous êtes également élève conservatrice d'État des bibliothèques. Vous êtes archiviste paléographe de la promotion 2020 de l'École des Chartes. Vous êtes spécialisée dans l'histoire de la mystique entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Vos centres d'intérêt incluent le rôle politique des bibliothèques dans la formation des individus, le bien-être au travail, les processus organisationnels au sein des bibliothèques. Vous vous intéressez également aux bibliothèques ultramarines et aux enjeux de la coopération internationale. Votre mémoire est le fruit d'une interrogation personnelle très ancrée dans le contexte contemporain que vous observez, donc avec les types burn-out, les questionnements autour du défi écologique. Vous posez cette question, de quel travail en bibliothèque avons-nous besoin ? Et en tant que futur cadre, quelle vision du travail favoriser ? Donc vous avez utilisé les sciences humaines et sociales pour répondre à cette question. Vous avez résumé le tout en 10 minutes, donc merci beaucoup. À compter du 1er juillet, vous serez en poste à la Bibliothèque universitaire des langues et des civilisations à la BULAC, responsable du service de l'accueil. Donc votre mémoire a été établie sous la direction de Corinne Maubernard. Donc je vous laisse la parole.
Bonjour à tous. Merci à l'ENSIB et à la BPI de m'offrir cette opportunité de présenter ma recherche. Alors effectivement, j'ai consacré mon mémoire à un concept qui peut paraître un petit peu abstrait, un petit peu bizarre, le travail bien fait. Mais mon but là, dans ces 10 rapides minutes, c'est de vous montrer que c'est un concept qui peut être heuristique, c'est-à-dire qu'il permet de mieux appréhender, il me semble, les dimensions psychologiques et sociales du travail. Et aussi, c'est un concept, il me semble, qui permet d'agir et d'orienter l'action. Alors, qu'est-ce que le travail bien fait ? Comment est-ce que on utilise ce syntagme ? J'ai pris quelques exemples que j'ai trouvés dans les médias très récemment, donc un usage marketing et un usage politicien-politique. Donc dans le cas d'une marque de spiritueux, le travail bien fait est utilisé pour valoriser l'excellence formelle et l'excellence gustative. Et on montre certes le travailleur, mais surtout ce qu'on veut faire valoir, c'est la production qui est parfaite, sous-entendu supérieure à celle de ses concurrents. Et puis le deuxième exemple, c'est une déclaration de l'ancienne ministre Amélie Oudéa-Castéra. Là aussi, dans son cas, le travail bien fait est vu au prisme de l'excellence formelle, mais c'est aussi vu comme un trait de caractère, donc il y a une sorte de psychologisation. Amélie Oudéa-Castéra essaye de se montrer comme une bonne élève méritante. Donc, elle donne aussi à voir une vision très scolaire du travail bien fait, une vision qui est très prégnante en France, où on a la culture de la notation. Et moi, mon travail, il cherchait à aller à rebours de ces conceptions-là. Je m'appuie sur les sciences du travail. C'est un ensemble de disciplines de sciences humaines et sociales qui sont relatives au travail. Peut-être que vous connaissez l'ergonomie, la psychologie du travail, la sociologie du travail des organisations, l'anthropologie. Et l'intérêt de ces sciences humaines et sociales, c'est d'adapter un paradigme critique et c'est aussi de partir de la parole des travailleurs et des travailleuses. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend ? Eh bien, c'est ce que j'ai entouré en rouge là, dans cet article très récent du Monde, c'est que les travailleurs, les travailleuses, eh bien, pour eux, le travail bien fait, en fait, c'est d'abord un moteur intime extrêmement puissant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez les bibliothécaires aussi, puisque dans le cadre de mon étude, j'ai interrogé une quinzaine de bibliothécaires. Il y a cette passion aussi du travail bien fait dans notre profession. Donc certes, les travailleurs, les travailleuses veulent être mieux rémunérés, parfois avoir un travail moindrement chargé, mais au fond, le véritable socle de leur engagement, c'est le travail de bonne qualité. Et le travail bien fait, c'est donc celui qui va préserver la santé des opérateurs et des opératrices. Et le principal théoricien dans ce cadre-là du travail bien fait, c'est un monsieur qui s'appelle Yves Clos, qui est psychologue du travail. J'ai mis sa petite photo. Que dit Yves Clos ? En fait, il déplore la conception taylorienne du travail, qui est, selon lui, toujours en cours dans nos sociétés, en particulier en France. C'est-à-dire que d'un côté, les encadrants conçoivent et de l'autre côté, les professionnels exécutent. Et lui, il déplore l'absence de marge d'action des travailleurs, des travailleuses. Il déplore aussi une lecture très psychologisante de ce qu'on appelle aujourd'hui les RPS, les risques psychosociaux. C'est-à-dire que le mal-être professionnel, dont on entend beaucoup parler, est vu comme une fragilité individuelle et très rarement comme un problème systémique. Or, lui défend une lecture systémique. Ce que dit Yves Clos, c'est que pour s'épanouir, les travailleurs, les travailleuses doivent reconnaître quelque chose d'eux-mêmes dans l'organisation du travail. Ils doivent éprouver ce plaisir si particulier du travail bien fait. Et ce qu'Yves Clos met vraiment en avant, ce sur quoi il met l'accent, c'est, et c'est un peu, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est le conflit. C'est-à-dire qu'il va, il cherche à réhabiliter ce qu'il appelle la controverse au sein des équipes, le dissensus sur les critères du travail bien fait. Et pour lui, ce dissensus-là, il ne faut pas le prendre avec peur, mais il faut voir un véritable réservoir de dynamisme, d'énergie. Alors, et en bibliothèque. Alors, ma recherche, comme disait Nathalie Marceau-Ramel, est vraiment en émergence. J'ai consulté la littérature professionnelle, j'ai interviewé une quinzaine de personnels en lecture publique, dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et ce qui m'est apparu, c'est que les conflits de critères en bibliothèque sont très complexes et très intéressants. Et un des motifs de leur complexité, c'est que les bibliothécaires, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on traverse des paradigmes extrêmement multiples que j'ai essayé de lister dans cette matrice, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Et par exemple, si on prend l'exemple de l'entretien professionnel, qui s'inscrit, on va dire, dans une vision très gestionnaire de l'administration. Jusqu'à très récemment, les fonctionnaires recevaient même une note, en fait. On pourrait penser que cette pratique s'inscrit seulement dans ce que j'ai appelé le discours gestionnaire ou paradigme gestionnaire. Et en fait, quand on interroge des encadrants, des encadrantes, la pratique, en fait, de cet entretien, et elle est souvent relationnelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de valider des objectifs, mais parfois même, en fait, c'est un lieu de résolution, de tension au sein des équipes. Donc, c'est un lieu de discussion. Et de façon plus courante, les controverses sur les critères du travail bien fait en bibliothèque, elles sont partout, elles saturent le monde du travail. J'ai mis quelques exemples ici sur cette diapositive, bon, je ne peux pas revenir sur toutes. Une qui est beaucoup apparue, c'était la question de la notice bien faite. C'était vraiment très prégnant. Et on voit que c'est une question qui est vraiment chargée d'affect pour les personnes qui cataloguent, pour les personnes qui encadrent des catalogueurs. Il y a notamment un directeur de bibliothèque qui me disait, voilà, dans mon équipe, il y a des ayatollahs de la Dioué. Donc c'est un lieu de conflits de critères. Et ces conflits de critères, ils ne sont pas toujours étudiés, regardés collectivement, qui est quelque chose qui me semblerait intéressant. Néanmoins, je vous invite à consulter le mémoire d'une collègue, Coralie Philibert, qui a travaillé sur le métier de catalogueur et qui, justement, a des exemples, elle, de collectif de travail où cette question des critères de la qualité du catalogage, elle est abordée. Et un des vrais atouts des bibliothécaires, c'est que dans tous les entretiens, les interviews que j'ai menées, les personnes disaient avoir vraiment chevillé au corps cette question du service public, une aspiration très, très forte à servir. Et il me semble que c'est un socle commun qui peut permettre de soutenir une controverse sur des critères de qualité du travail. Et Pour finir, donc la troisième partie de mon mémoire, c'était une réflexion plus pratico-pratique, comment promouvoir une culture du bien faire. C'est déjà quelque chose qui est à court hein, dans la profession, mais je mets l'accent aussi sur des choses qui sont en fait actuellement. Donc je propose de concevoir des environnements qui favorisent l'autonomie et non le contrôle, qui favorisent la proximité sociale, qui favorisent la compétence. Aussi, ce qui est apparu, c'était que le management était central. Voilà, c'est pas seulement un titre, mais c'est vraiment un travail, le travail de management, qui n'est pas une mise en œuvre de techniques et de méthodes gestionnaires, mais surtout un travail impliquant des défis quotidiens. Si bien que le manager est amené à développer une compréhension des dynamiques humaines au sein de son organisation. Et j'ai aussi étudié donc, des espaces où on discute du travail en cours, non pas discuter des projets, faire avancer des projets, mais discuter des dynamiques, des processus. Des espaces comme l'analyse de pratique, je vous renvoie à mon mémoire si ça vous intéresse, et puis aussi la question de la recherche-action. Là, je vous renvoie vers un titre paru très récemment en presse de l'ANSIP, « Penser la médiathèque en situation de crise », parce que ce qu'on voit, c'est que l'intervention d'une psychosociologue dans une médiathèque en difficulté pousse sa directrice a développé une vision systémique du collectif de travail et a engagé des mutations de l'organisation du travail dans la médiathèque qu'elle dirige. Et pour conclure, cette citation de François Tosquelles, qui est un psychiatre des années 60-70, qui gagnerait à être connu et qui est actuellement au centre d'une exposition au Palais de Tokyo qui s'appelle « Toucher l'insensé ». Et François Tosquelles écrit « Là où les travailleurs parviennent à préserver leur santé, c'est que leur activité réussit à affecter l'organisation officielle du travail, là où cette dernière peut servir de ressource au développement de leur pouvoir d'agir en situation. La meilleure façon de défendre ce métier, c'est donc encore de s'y attaquer à tous les étages de l'organisation du travail, en passant d'un contexte à l'autre, de l'expérience quotidienne la plus engagée face au réel, jusqu'à la conception des tâches. » Merci.
Merci beaucoup Florine pour ce... Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait du bon travail? Je pense que oui. Oui. Maintenant, je vais laisser la parole à Lewis Kerfan-Brown. Je le dis à l'anglaise en fait, Lewis, peut-être que je me trompe.
Non, c'est bon.
C'est bon. Et... Je vais mettre en mode diaporama. Hop. Donc, je vous présente également, Lewis. Vous êtes titulaire d'un PhD en sciences humaines au terme de vos études que vous avez effectuées au Royaume-Uni. Vous avez été enseignant, puis vous avez travaillé dans le commerce et vous avez entamé une reconversion professionnelle à l'ENSIB. Vous êtes actuellement élève du master Histoire, Civilisation, Patrimoine, mention culture de l'écrit et de l'image. Et votre sujet de recherche s'articule autour de la lecture publique et invite à repenser les transferts culturels entre les États-Unis et la France dans ce domaine. Vous aspirez à travailler pour des établissements nationaux ou universitaires. Vous envisagez de passer les concours de la fonction publique, ce à quoi je ne peux que vous souhaiter une pleine réussite dans vos projets. Et votre mémoire est intitulée « Jean-Pierre Seguin et la genèse de la PPI 1959-1977 » sous la direction du professeur Nicolas Beaupré, que je n'ai pas cité, mais qui était également le directeur du mémoire d'Eddy Noblet. C'est le professeur Nicolas Beaupré à l'ENSIB.
Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette présentation et cette invitation. Moi, je voudrais parler aujourd'hui de l'histoire de l'institution qui nous accueille, la BPI. Et pour bien mesurer le chemin que je voudrais que nous parcourions ensemble ce matin, je voudrais partir de ce qu'on pense savoir de l'histoire de la BPI. Et dans l'esprit du grand public, la BPI, ça commence en 1969 avec l'intervention de Georges Pompidou, qui décide en décembre 69 de créer sur le plateau Beaubourg un centre dédié aux arts. Par contre, pour les historiens, eux, ils savent depuis une quarantaine d'années déjà que ça n'est pas tout à fait le cas. Et ils le savent notamment grâce à cet homme, Jean-Pierre Seguin, qui est le fondateur et le premier directeur de la BPI et qui a publié en 1987 un livre qui s'appelle « Comment est née la BPI, invention de la médiathèque » et qui retrace l'histoire de la BPI. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à Jean-Pierre Seguin, nous sommes conscients depuis maintenant assez longtemps qu'il y avait un projet de bibliothèque sur le plateau Beaubourg avant le centre Pompidou. Dans cet ouvrage, « Comment est née la BPI ?», Seguin revenait en effet sur la genèse de la BPI et en particulier sur le projet de bibliothèque des Halles, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était un projet qui avait été lancé par Julien Quint, dont vous avez la photo juste ici, c'est le monsieur à gauche, qui était donc administrateur général de la Bibliothèque nationale. Et donc en 1959, dans la foulée de l'annonce du déménagement des Halles à Rungis, c'est à ce moment-là que Julien Quint entrevoit, décide la création d'un projet de bibliothèque des Halles pour désengorger en fait la Bibliothèque nationale, qui était à l'époque sur le site Richelieu, comme ça l'est encore aujourd'hui, qui était complètement saturée et dont les collections étaient en mauvais état. Et donc il a cette idée de créer une annexe de lecture publique, d'abord aux Halles et puis ensuite sur le plateau Beaubourg. Ce projet est repris et renforcé par Étienne Denry, c'est le monsieur à droite, qui est l'autre administrateur général de la Bibliothèque nationale à partir de 1964, donc prend le relais de Julien Quint. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de bibliothèque des Halles, de projet de bibliothèque des Halles, appartenait jusqu'ici, au fond, à une sorte de préhistoire confuse et au fond peut-être un petit peu négligeable de l'histoire du centre Pompidou. Et cette impression, elle a pu être renforcée, accréditée, par le grand livre sur le centre Pompidou, « Le cas Beaubourg » de Laurent Fleury. Vous l'avez ici à gauche, publié en 2007. C'est une étude classique très importante. Si vous avez un livre à lire sur le centre Pompidou, peut-être commencez par celui-ci, qui en fait explique le geste de Georges Pompidou qui inaugurait le temps des grands projets présidentiels. Quand on parle des grands projets présidentiels, ça commence avec le centre Pompidou. Et donc c'est un livre qui est déterminant parce qu'il met bien en valeur la volonté chez Georges Pompidou d'une remise à niveau de la France dans le champ culturel face à l'américanisation du monde et à la perception à ce moment-là que New York avait remplacé Paris comme centre des arts. Mais ce livre, comme d'autres à sa suite, ont pu laisser penser que la BPI répondait finalement à une commande présidentielle. Or, ça n'est pas tout à fait le cas. Les choses changent lorsque l'historiographie du Centre Pompidou se déplace du projet politique, social, artistique du Centre vers son architecture. Et en effet, depuis une dizaine d'années, l'historiographie, notamment étrangère, s'intéresse à l'architecture de Piano, Rogers et Franchini, celle-ci même, et les architectes du Centre. Et l'aboutissement de cette démarche, c'est le livre que vous avez à droite, le livre de Boris Amzeyan, qui a été publié l'année dernière et est aujourd'hui chargé d'études au Centre Pompidou. Et il a publié ce livre qui reprend toute l'histoire de l'architecture du Centre, y compris le projet de bibliothèque des Halles dans les années 60. Alors, il a repris le chemin des archives, il a ressorti les plans de cette bibliothèque des Halles. J'ai même moi-même pu consulter ces documents, j'y reviendrai. Et vous avez là donc les trois préfigurations architecturales de la bibliothèque des Halles dans les années 60 pour le plateau Beaubourg, avant la décision de Pompidou en 1969. Vous avez d'abord le premier plan de Châtelain, qui était l'architecte de la Bibliothèque nationale. C'est le plan qu'il avait prévu pour la future BPI, à l'époque bibliothèque des Halles. Ensuite, Simounet, l'architecte qui a été sollicité par Seguin, il avait déjà formulé un plan lui aussi. Et quand les choses deviennent plus sérieuses, entre 68 et 69, un architecte avait été choisi par le ministère de l'Éducation et aussi le ministère de la Culture, c'était déjà deux choses différentes à l'époque. Et c'était Jean Faugeron, vous avez le plan sur la droite, en 1969. Il avait prévu, on le voit lui, une bibliothèque ronde. Et c'était un hommage aux bibliothèques du 19e siècle. À partir de là, si un projet de bibliothèque avant-gardiste sur le plateau Beaubourg avait déjà donné lieu dans les années 60 à des programmes et à des plans qui ont ensuite irrigué le projet du Centre Pompidou, c'était pour moi une toute autre histoire qu'il fallait écrire, et c'est celle qui fait le sujet de mon mémoire, non plus l'histoire du Centre Pompidou qui comprend l'histoire de la BPI, mais l'histoire de la BPI qui, à un moment, s'est intégrée dans le projet du Centre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mon travail s'attache donc non seulement à faire revivre les étapes essentielles de la bibliothèque des Halles future BPI, programme, architecture envisagée, les inspirations de cette bibliothèque, jusqu'à 1969, mais également la façon dont ces programmes ont évolué, se sont transformés au contact du projet présidentiel à partir de 1969. Et donc la bibliothèque des Halles s'est inscrite dans ce projet présidentiel, mais sans pour autant s'y fondre. Ça, c'est très important. Donc cette tension entre projet présidentiel et projet de bibliothèque, il est au cœur de la seconde partie de mon travail, qui traite des années 1969 à 77, l'ouverture. Alors, je vais parler peut-être un petit peu de la méthodologie. Alors, ça, c'est après. Je vais parler un petit peu de la méthodologie. J'ai, moi aussi, donc, repris le chemin des archives. J'ai pu consulter 4 fonds. Excusez-moi. J'ai pu consulter 4 fonds, 3 aux archives nationales. Le fonds Henri Domergue, qui est... Henri Domergue était le beau-frère du président Pompidou. Et il coordonnait à l'Élysée tous les efforts d'élaboration du Centre Pompidou. J'ai pu aussi consulter les archives de la BPI, évidemment, le fonds BPI, qui lui contient déjà les documents des années 60 et du projet de bibliothèque des Halles. Également le fonds Capitan de René Capitan, qui était un soutien du projet au Conseil de Paris dans les années 60. Et enfin, j'ai pu consulter récemment les archives institutionnelles de la BNF, notamment la correspondance de Julien Quint. On avait vu que c'était le premier administrateur général de la BN qui avait lancé ce projet de bibliothèque des Halles, et également ce qu'il reste de la correspondance d'Étienne Dénery. Quantitativement, ça fait une vingtaine de cartons aux archives nationales, une dizaine de boîtes à la BNF, c'est des milliers de documents. J'ai aussi conduit une dizaine d'entretiens avec des acteurs de la BPI qui étaient là au moment de la fondation de la BPI, ou qui connaissaient Jean-Pierre Seguin. Et notamment la deuxième femme de Jean-Pierre Seguin, Francine Seguin, donc j'ai pu avoir accès à des informations inédites et des documents personnels. Et c'était là aussi des sources très importantes. Alors, dans le peu de temps qu'il me reste, je vois le temps qui a filé, je voudrais peut-être parler du résultat et quelles perspectives. Alors, je vais aller très vite. J'aurais pu vous parler de Julien Quint ou d'autres. Juste un mot pour vous parler peut-être des transferts culturels entre les États-Unis et la France à l'occasion de la conception de la BPI. Il faut savoir que les bibliothécaires français n'ont pas attendu Jean-Pierre Seguin pour se rendre dans le monde entier visiter des bibliothèques. Ce qui change là, c'est l'ampleur des déplacements. Lors de la conception de la BPI, Seguin se rend en Amérique du Nord à 4 reprises, au Royaume-Uni à 3 reprises, en Scandinavie à 3 reprises, dans d'autres pays européens à de nombreuses reprises, même en Union soviétique. Et cette vague de voyages contribue à l'emploi de solutions techniques, l'informatisation, de nombreux autres services. Et au-delà de ça, c'est une culture bibliothéconomique nouvelle qui fait l'objet d'un transfert au moment de la conception de la BPI. Donc pour conclure, c'est d'autant plus important et intéressant que ce transfert culturel et transfert de compétences, il a lieu au même moment que l'essor des médiathèques en France à partir des années 70. Donc, s'il m'est permis de dramatiser un petit peu les enjeux de ma recherche ici, c'est donc tout un pan de l'histoire des bibliothèques françaises qui s'écrit là. Je vous remercie pour votre attention.
Un grand merci, Lewis, et un grand merci à tous les 5 pour votre contribution en 10 minutes et votre synthèse, j'allais dire parfaite, de votre mémoire. Maintenant, la parole est à la salle. Les questions, les échanges que vous auriez, enfin des questions que vous auriez. pas de questions pour l'instant, mais je peux commencer les questions. Peut-être que pour m'adresser à l'ensemble des élèves et des étudiants, encore étudiants et élèves pour l'instant, donc Florine a parlé en fait de la question du travail bien fait en tant que tel. Est-ce que vous avez ressenti dans la façon de mener votre mémoire cette vision-là, cet enjeu du travail bien fait? C'est une question générale en fait, parce que je ne voulais pas choisir un par rapport à un autre. Est-ce que vous voulez répondre chacun à votre tour? C'est pas facile. Est-ce que vous avez senti, enfin, vous avez souhaité faire du bon travail, en fait, quand vous avez...
Peut-être un mot, je ne sais pas si vous avez aussi... moi, j'ai été... je pense que c'est le cas pour nous tous. On a été... Enfin, moi, j'ai été passionné par mon travail de recherche. Et donc, du coup, le travail bien fait, c'était peut-être aussi du plaisir. Et je crois que... Voilà, je crois qu'à partir du moment où on est heureux de faire ce qu'on fait, à partir de là, on fait aussi du bon travail. Je sais pas si
quelqu'un... C'est le moment de parler de l'intérêt de votre recherche, en réalité.
Pour nous, c'était peut-être un petit peu différent qu'en master, parce qu'on avait un peu moins de 6 mois pour faire ce travail, donc forcément, ça... Ça réduit les possibilités de rencontre déjà. Enfin, on est forcément sur des entretiens avec une vingtaine de personnes. Certains ont réussi, certaines ont réussi à en faire 30, mais bon, ça limite aussi un petit peu le matériau de travail forcément. Mais oui, pour ma part, je pense que j'ai fait du bon travail. Et en tout cas, j'ai pris plaisir à le faire. J'ai été très impressionnée par tout ce qui se faisait sur le territoire. J'ai rencontré des gens engagés et ça m'a fait beaucoup de bien. Moi qui ne viens pas des bibliothèques, je me suis dit que je me sentirais vraiment bien dans ce milieu grâce aux personnes que j'ai rencontrées.
Merci. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié faire ce travail de recherche. Ça m'a vraiment passionnée. De pouvoir toucher voilà, à ces sciences humaines et sociales sur le travail. C'était extrêmement gratifiant de rencontrer des bibliothécaires qui venaient de partout, qui avaient des histoires différentes. Et ce mémoire, ça a été un lieu de très grande liberté, de très grande découverte, donc je suis très satisfaite. Peut-être la difficulté pour moi, c'est que je défends une définition très relationnelle du travail bien fait, c'est-à-dire que le travail bien fait, c'est celui où on a pu mettre à l'épreuve son travail auprès d'un collectif, en discuter, et la recherche actuellement, c'est plutôt l'affaire d'un ensemble de producteurs et de productrices, et ça rencontre pas forcément le public. Et donc c'est pour ça aussi que j'étais très contente de venir ici et de discuter de ce travail, parce que j'ai envie de savoir ce que les gens en pensent. Voilà.
Pour ma part, je pense, dans le cadre de mon sujet de recherche, que la question du temps qui passe, c'est une question qui nous concerne en définitive tous, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et c'était particulièrement passionnant de voir quel regard, quel recul portaient les professionnels interrogés sur leur travail. C'est l'ensemble de ces réflexions, de voir aussi que, du coup, il y avait vraiment des représentations particulière, personnelle de chaque archiviste rencontré sur le temps qui passe et sur le travail qu'il mène aussi pour mettre à disposition tous ces documents d'archives. Et tout ce travail-là, c'était intéressant à mener.
Merci. Alors moi, ce que j'ai adoré faire et ce que j'adore faire, c'est de frapper aux portes. Et quels que soient les collègues que je suis allé rencontrer au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Culture, au ministère des Armées, à l'intérieur, à l'UNESCO, à l'IFLAR, etc., à BSF, auprès de l'Association des bibliothécaires ukrainiens. À chaque fois que j'ai frappé aux portes, à chaque fois on m'a bien accueilli, et les échanges sont toujours, dans ce cas-là, très agréables. Donc voilà, l'idée de croiser des cultures et des horizons professionnels très différents, c'est quelque chose qui est réjouissant.
Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Après ce deuxième tour de table.
Ah, je voulais déjà vous remercier, remercier tous ces jeunes étudiants, parce que vraiment c'est un plaisir toujours d'assister à ces actualités de la recherche et de voir qu'il y a des chemins d'ouverture et qui sont vraiment passionnants. Moi, ça fait quand même 35 ans que je travaille en bibliothèque, et pour parler du travail bien fait, la difficulté qu'on rencontre, c'est que ça va très vite dans la mutation, et on a l'impression qu'on doit être performant sur le numérique, on doit être des gentils animateurs, on doit faire plein de choses, toutes plus passionnantes les unes que les autres, mais parfois on a l'impression que c'est au détriment de la qualité du travail sur les collections, sur d'autres sujets qu'on avait le plus le temps de traiter auparavant. Donc je fais ma vieille réactionnaire, mais, mais je tenais à le dire, il y a une frustration en fait, parce que c'est vraiment un travail passionnant que de voir évoluer les bibliothèques et d'être dans ce mouvement d'évolution, mais c'est toujours un peu frustrant de ne pas arriver à pouvoir tout conjuguer en fait. Voilà, c'était juste cette réflexion que je voulais faire.
Oui, une question de Christophe, Christophe Evans.
Je sais pas très bien si c'est une question, c'est plutôt en écho à ce que j'ai entendu, parce que évidemment ça résonne beaucoup, hein, cette question du travail bien fait. Et moi j'essaye de me la poser aussi pour la question des recherches bien faites. Travail bien fait, vous allez être bientôt aspiré dans un vortex où on va vous demander de travailler vite et bien, voire de plus en plus vite et bien, voire encore plus vite et tout aussi bien. Et il va vous falloir tenir dans cet écosystème invivable, parce que travail bien fait, c'est à la fois, vous l'objectivez très bien à travers la définition relationnelle, et évidemment il faut une définition relationnelle, mais en même temps j'ai l'impression que c'est un idéal qui n'est jamais atteignable, mais il faut que ça reste pas un idéal, mais en tout cas quelque chose qui vous attire et donnez-vous les moyens. C'est peut-être un ancien qui vous parle, de faire en sorte que vous puissiez continuer à faire du travail bien fait, tout en respectant l'arc où il va s'agir effectivement d'avoir un retour sur ce travail, votre propre retour réflexif et le retour des autres. Et pour nous aussi, la recherche bien faite, ben c'est peut-être, et on n'y arrive pas suffisamment et pas toujours, c'est la recherche, ce qu'on essaye de faire ici dans l'actualité de la recherche, où on peut avoir un retour à la fois des publics de la recherche, mais des personnes aussi qui sont impliquées dans les recherches. Et là, je pense qu'on peut travailler collectivement à essayer d'être plus fort sur ce genre de choses, et pour respecter cette notion du travail bien fait qui évidemment doit nous porter.
D'autres interventions, d'autres questions? Oui.
Bonjour, merci à tous les cinq pour vos interventions, c'était très intéressant, et je sais que c'est pas facile de résumer en 10 minutes le travail qui a duré plusieurs mois, voire un peu plus d'un an. Ma question était surtout pour Florine, par rapport donc toujours sur cette notion du travail bien fait. Tu as dit donc à juste titre que c'était une notion très subjective, même si on peut faire appel aux sciences pour avoir quelque chose d'un peu plus, précis. Mais ça dépend aussi beaucoup des relations interpersonnelles entre les agents. Et je voulais savoir, dans les entretiens que tu as menés avec des agents, quelles étaient leurs opinions justement sur ce sujet. Comment est-ce qu'on fait typiquement quand on arrive en poste dans une nouvelle structure où il y a déjà des antécédents, il y a déjà des dynamiques dans les équipes, et quel est l'impact sur cette perception du travail bien fait? Je pense, le cliché, c'est toujours un petit peu le lien entre les directions qui sont dans leur tour d'ivoire et les agents de terrain qui, eux, connaissent la réalité. Est-ce que c'est des choses qui ont été abordées par les agents que tu as rencontrés?
Alors, effectivement, les relations interpersonnelles, c'était quelque chose que les personnels que j'ai interrogés dont les personnes parlaient beaucoup.
parce que très souvent, la discussion, elle va sur les conflits de critères très rapidement. C'est-à-dire que y a une personne qui va dire, justement, je suis un peu réactionnaire. Moi, je pense qu'il faut plutôt faire ça, alors que mon ou ma collègue voudrait faire ça. Sur le rapport entre encadrant et encadré, en fait, les personnes que j'ai interrogées ne se plaignaient pas de leur encadrant, de leur encadrante. Y a le management, on l'a souvent abordé par les entretiens, parce que souvent, je l'amenais un petit peu aussi, il faut dire, mais les personnes disaient qu'il y a des chefs, des responsables qui vont donner plus d'autonomie, etc., qui vont rendre le travail plus plaisant, plus satisfaisant. Mais la question des difficultés entre encadrants et encadrés n'était pas spécifiquement abordée.
Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je me rends compte en posant la première question de tour de table autour du travail bien fait d'avoir introduit le biais sur cette thématique. C'est un biais cognitif finalement. Mais les autres enjeux ne doivent pas être masqués. La guerre, la question des archives également virtuelles, avec la question de la désinformation que posait Camille. Et puis les enjeux des violences sexistes et sexuelles également portées par Juliette, en bibliothèque universitaire, également l'histoire de la BPI, dont on va bientôt parler, et ça sera certainement le lien de transition avec Christophe dans quelques minutes. N'hésitez pas à poser des questions sur d'autres sujets, en fait, aussi.
Oui, bonjour. Moi, je voulais juste poser la question par rapport au travail autour des VSS, savoir pourquoi vous avez choisi le terrain plutôt côté BU et pas lecture publique, qui aurait pu nous paraître peut-être plus naturel, puisque c'est là où potentiellement il y a le plus de diversité des publics accueillis et donc le panel le plus large par rapport à une sorte de représentation de notre société. Et voilà, pourquoi vous avez choisi plus les BU que la lecture publique ?
Alors, Il y a un biais assez important qui est que durant la formation conservateur, conservatrice des bibliothèques, à l'ENSIB en tout cas, c'est très très axé bibliothèque universitaire. Quasiment tous les cours sont liés à ça. On a très très peu de formation sur la lecture publique, ce qui est un problème, je trouve. C'est moins le cas, effectivement, du côté des conservateurs territoriaux à l'INET. Mais voilà, donc on a aussi, nous, ce biais-là d'être très, très, très axé BU. Oui.
J'apporterai une nuance malgré tout, si je peux me permettre quand même malgré tout, parce que le mémoire, par exemple, de Nina Pranal justement la question en fait également féministe de l'éducation à la vie sexuelle, sentimentale, elle aborde également la lecture publique. Donc c'est un choix qui a été fait aussi de ce côté, de votre côté, en fait, du coup.
Oui, oui. Alors, bien sûr, c'est un choix que j'ai fait pour les raisons que j'ai présentées aussi pendant mon exposé. Le fait que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche se soit investi sur ces questions, qu'il y ait du coup des effets concrets au niveau des universités. Donc ça, ça offrait déjà un cadre législatif qui est plutôt absent en lecture publique, malheureusement. Enfin, le ministère de la Culture n'a pas entamé cette transition pour l'instant. Donc voilà, et puis après, il y avait aussi moi, quelque chose qui m'est arrivé durant mon expérience d'enseignante, où je me suis trouvée complètement démunie face à une étudiante qui était venue me voir pour une agression qu'elle avait subie, et j'avais vraiment pas les clés. Et donc je me suis dit, si ça m'arrive dans ma future carrière de bibliothécaire, qu'est-ce que je fais et vers qui je me tourne. Donc voilà, j'avais aussi envie de d'écrire ce mémoire pour un guide pratique pour moi et puis pour nous tous et toutes.
ministère de la Culture allait répondre.
Voilà, le ministère de la Culture va répondre. Merci. Donc, Pascale Isartel, je suis adjointe au directeur du département des bibliothèques, du service du livre et de la lecture à la DGMIC au ministère, pour effectivement expliquer que le ministère se préoccupe, d'une part parce qu'il a un poste de haute fonctionnaire à l'égalité et à la diversité, qui connaît quelques remous, si vous avez lu la presse hier, je tiens à le souligner, parce que justement, Agnès Sall anime avec moi un groupe de travail spécifique sur ces questions en lecture publique. Depuis peu de temps, Florence Salanouve en fait partie, je l'en remercie, parce que effectivement, ces questions sont complexes et sont évidemment très prégnantes dans ce type d'établissement. Avec la différence, c'est que le ministère de la Culture n'a pas la tutelle des bibliothèques municipales et départementales, avec des politiques qui dépendent des collectivités territoriales qui se sont pour la plupart déjà engagées sur ces sujets. Donc voilà, c'est un groupe qui a démarré il y a peu de temps pour montrer que donc, cette préoccupation, elle est bien réelle. Le ministère lui-même est labellisé égalité, diversité. Le renouvellement du label est en cours. D'ailleurs, il y a tous ces processus de labellisation qui sont intéressants, avec une norme spécifique de l'AFNOR qui est sortie au mois de mai sur ces questions d'égalité femmes-hommes. Et je pense que ça, c'est aussi à souligner. Et donc, j'espère que malgré les soubresauts qui sont liés à la fonction de haute fonctionnaire et du départ d'Agnès Sall, qui était quand même l'âme de tout ce travail au ministère, nous allons pouvoir continuer dès la rentrée. Mais justement, nous vous convierons à intervenir dans notre groupe de travail. Et je vous remercie pour ce travail fouillé qui va nous servir beaucoup.
Oui, d'ailleurs, pour rebondir, je tiens à préciser que la ville de Paris a nommé des référents et référentes égalité. Pour la DEC actuellement, c'est Anne-Marie Vaillant. Et j'en profite pour faire un petit coup de publicité. On est en train d'organiser une journée d'études qui aura lieu le 26 novembre prochain, donc qui est sous la tutelle de l'ABF, avec pour sujet genre et sexualité en bibliothèque. Voilà, donc vous êtes tous et toutes conviés, ça sera sur le campus Condorcet à Aubervilliers.
Vous allez dire qu'on a un côté suiveur et qu'on s'accroche aux sujets qui sont... Moi, je voulais revenir sur un point précis, justement, Juliette, de votre travail et de vos préconisations, et notamment cette chose qui me paraît frapper au coin du bon sens, mais qui mériterait d'être interrogée aussi, quand vous proposez à un moment d'intégrer le questionnement sur les violences sexuelles et sexistes. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas utiliser l'acronyme, il faut dire violences sexuelles et sexistes. Si on dit VSS, on commence à administrativer le truc et l'invisibiliser un petit peu. Et donc, intégrer ce questionnement à l'entretien professionnel annuel. Et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, hein, honnêtement, avant de vous entendre. Donc je trouve ça à la fois très intéressant, pertinent, parce que c'est un moment important, hein, dans la relation d'un ou d'une salariée avec son responsable hiérarchique une fois dans l'année, où on doit pouvoir exposer tout un tas de choses. Et en même temps, je me demande s'il n'y a pas aussi une limite à ce questionnement et au dialogue qui peut s'instaurer à ce moment-là, sachant qu'on est dans une relation évidemment asymétrique, hiérarchique, contrôlée.
Oui, et d'ailleurs, il ne faut pas que ça soit une ligne à cocher sur le questionnaire. Enfin, faut qu'un climat de confiance soit déjà établi entre les encadrants et les agents. Moi, c'est vrai que j'y aurais pas pensé naturellement si c'était pas venu dans plusieurs entretiens que j'ai eus avec des responsables de bibliothèques. D'ailleurs, pour l'une d'entre elles, c'était assez impensable de faire ça, parce qu'elle ne se sentait pas légitime de poser la question. Elle ne voulait pas mettre ses agents mal à l'aise. Et pour un autre, c'était absolument nécessaire, mais parce que lui avait... en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, son bureau, c'était une espèce de promotion, en fait, de ces questions-là. Il y avait partout des...
des affiches, des flyers. Lui-même était investi dans la mission égalité de son université et ses collègues étaient au courant de ça. Donc ça sortait pas de nulle part. Et c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas se limiter à l'entretien annuel. Il faut que ça soit une question récurrente. Pour ça, on peut faire plusieurs fois par an des espèces de petits séminaires au sein de l'équipe, parler de ces questions-là. Enfin, voilà. Donc je suis d'accord, il ne faut pas que ça soit une question administrative comme une autre. Il faut que ça soit un vrai sujet au sein des équipes.
Il me semble que le vrai problème, c'est que c'est toujours un sujet tabou, quelque chose qu'on cache et qu'il n'y a pas de sanctions ou très très peu de sanctions par rapport à ces agissements. Tant qu'on n'aura pas effectivement pris le problème, donc on prend le problème à la source, mais il n'y a pas de résolution du problème, il y a des lois qui évoluent et c'est merveilleux, mais la société n'évolue pas aussi vite, ben, ça sera toujours un sujet qui ne sera pas complètement réglé.
Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on est parfaitement dans les temps et il est midi. Donc on va donner la parole. Merci beaucoup en tout cas à tous les cinq.